بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بس rapproche un petit peu s'il vous plaît. Au moins on ne gêne pas les gens qui sont en train de compléter leur salat. Jazakumullah khair. Chers frères en islam, nous sommes toujours en train d'étudier le hadith Jibril alayhi salam, hadith merveilleux, magnifique, hadith rempli de sagesse, rempli de ilm, hadith qui nous apprend les bases de notre religion, hadith qui nous apprend, qui nous fait réaliser comment adorer Allah Azza wa Jal. On avait expliqué qu'en développant les 6 branches de la foi, en développant les 6 branches de la foi, le croyant pourra réaliser pourquoi il adore Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a gagné en faisant l'adoration d'Allah Azza wa Jal, quelles sont les conséquences s'il abandonne l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et quel est l'aboutissement. Si, barakallahu fik, on pouvait éteindre quelques ventilateurs, parce qu'on a les pages qui s'envolent, et ça fait un bruit, subhanallah. S'il y a possibilité, jazakumullah khair. Donc ce croyant qui va étudier les bases du iman, les 6 branches de la foi, il aura al-basira, il aura la clairvoyance. Et mes chers frères, je pense que c'est vraiment ce qui nous fait défaut, la clairvoyance, la compréhension saine de la religion. Parce que nous avons interprété la religion comme étant un cumul de bonnes actions. Qu'il faut faire beaucoup. Nous, on a intégré, pour nous, être un bon musulman, c'est faire beaucoup de bonnes actions. C'est pour ça que quand on vient à la masjid pendant le mois de Ramadan, on a un sentiment de satisfaction. Pourquoi ? Parce qu'on fait beaucoup de choses. Et on se dit que ça y est, j'ai fait beaucoup. Et donc, si les autres mois de l'année, je lève le pied, c'est pas grave parce que là, j'ai déjà fait beaucoup. Pour nous, le dîn, c'est une question de quantité. Pour nous, le dîn, c'est une question de visibilité. Faire des actions qu'on voit. Faire des actions qui peuvent être constatées. Voilà, on a construit une mosquée. Voilà, on a construit une médersa. Voilà, on a fait tel projet. On a donné telle chose et ainsi de suite. Ben, quand on voit ça, on se dit que ben, ça y est, on a atteint le plus haut degré de la foi. Alors que mes chers frères, il y avait des sahabas qui étaient tellement pauvres qu'ils ne pouvaient même pas donner sadaqa. Il y avait des sahabas qui, subhanallah, étaient malades. Et ils avaient beaucoup de mal à venir à la masjid pour faire leur salat en congrégation, jama'a. Il fallait qu'ils s'appuient sur des personnes, donc ça veut dire qu'il fallait que des personnes soient disponibles pour les aider à venir à la masjid. Malgré cela, ces sahaba avaient atteint les plus hauts degrés de iman. Parce qu'ils avaient su conjuguer iman et a'mal saliha. Vous voyez, dans beaucoup de versets du Coran, pas beaucoup, on pourrait dire tous les versets où on parle de iman, inna alladhina amanu, qu'est-ce qui vient tout de suite après ? Parce qu'on ne peut pas dissocier les deux. Si on enlève un, l'autre ne sert plus à rien. Si quelqu'un a juste les bonnes œuvres, il fait plein de choses, mais il ne connaît pas qui est Allah, il ne connaît pas pourquoi il adore Allah, c'est quoi l'au-delà, les anges, il ne connaît rien de tout ça. Le qiyama, le paradis, l'enfer, les punitions, les conséquences des péchés, la personne fait juste ce qu'il fait parce que tout le monde fait. Ses actions ne pèseront pas lourd. Et dans l'autre sens, de l'autre côté aussi, la personne qui développe la foi, il connaît avec une certitude tous les piliers de la foi, les détails, il a la science, yani, le ilm, il connaît tout, mais il ne met aucune action en pratique, là aussi ça ne sert strictement à rien. Donc les deux sont nécessaires. Développer ce qui est intérieur, c'est-à-dire la foi, le iman et l'accomplissement des bonnes œuvres. C'est pour ça qu'on a pris beaucoup de temps. On a pris beaucoup de temps pour essayer de développer au mieux. Ce n'est pas de la meilleure façon, mais développer dans la mesure du possible ces branches de la foi. Chose qui est très souvent et malheureusement négligée. On avait commencé en expliquant Al-Iman Billah. Et ça, c'est la base. Être musulman, avant tout, c'est connaître qui est Allah. Qui est Allah, parce que si on connaît qui est Allah, on sait pourquoi on doit adorer Allah. Et on sait comment on doit adorer Allah Azza wa Jal. Et on sait également quel est le type de relation que nous devons développer avec Allah Azza wa Jal. Et on avait eu l'occasion de développer quelques sifat, quelques attributs, quelques qualités d'Allah. Et on ne va pas citer on n'avait pas pour objectif de développer tous les attributs d'Allah, ça aurait pris un temps inestimable, une vie peut-être. D'accord ? Parce qu'on ne peut même pas le faire, on n'a pas les compétences et ça aurait pris une vie. Mais ne serait-ce qu'on a développé quelques attributs d'Allah pour nous donner une idée de la grandeur d'Allah. Pour que de notre cœur, on a ta'zimullah. On a la grandeur d'Allah qui s'installe dans nos cœurs. Parce que tant qu'on se prosterne sans comprendre qui est Allah, cette prosternation restera un geste, restera du gestuel. Ce ne sera pas du spirituel. Mais à partir du moment où on commence à connaître les sifat, les qualités d'Allah Azza wa Jal, ben vous allez voir cette sijda, cette prosternation va prendre une ampleur totalement différente. Les mains levées pour demander dua, les invocations pour invoquer Allah Azza wa Jal, quand le croyant il connaît quelle est la grandeur d'Allah, la générosité d'Allah, ses mains qui se lèvent pour demander pardon, mais celui qui connaît les sifat d'Allah, Ghafur, Rahim, Tawwab, les sifat qui montrent qu'Allah est pardonneur et miséricordieux, ben ce doua, ces mains levées là, auront un poids énorme. Autrement, la personne va demander istighfar, astaghfirullah, il lève les mains, comme tout le monde le fait, sans réellement comprendre c'est quoi al-inaba, c'est quoi al-tawba ou l'istighfar. Mais quand on connaît les sifat, les qualités d'Allah, les attributs d'Allah, Azza wa Jal, ces actions-là prennent une autre dimension. C'est ça l'objectif. Et ça, on peut l'atteindre que en développant al-iman ou billah. Chers frères, celui qui ne connaît pas Allah, il ne connaîtra pas comment l'adorer. Ça, il faut qu'on soit persuadé. Maintenant, si notre connaissance à propos de notre Seigneur, c'est uniquement qu'Allah est unique, on va dire oui, c'est les bases, c'est la base de la foi, mais est-ce que nos actions vont suivre après? Alors que quand on connaît les sifats d'Allah, Azza wa Jal, on aura une motivation instinctive pour faire les bonnes œuvres et automatiquement, on sera freiné face au péché. Automatiquement, quand on va prendre conscience, par exemple, qu'Allah est au-dessus de nous, qu'Allah nous entend, qu'Allah nous voit, qu'Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur, et ainsi de suite, qu'Allah est alim, et ainsi de suite, ben, on aura du mal à faire les péchés. Alors que de nos jours, nous nous rendons compte qu'il y a parfois des gens qui font beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes actions, mais quand le péché leur est proposé, c'est comme si que ils y vont tout naturellement. C'est comme si que c'est normal. Quelqu'un peut faire beaucoup de bonnes actions, mais voilà, il a besoin d'acheter une belle voiture ou une maison. C'est tout à fait normal de faire un prêt avec intérêt à la banque. Parce que il n'a pas compris c'est quoi le halal et le haram. Il a eu l'habitude de faire beaucoup de choses. Il sait qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes parce que c'est l'héritage culturel. Mais le pourquoi des choses, il ne maîtrise pas. Et comment c'est grave de désobéir à Allah Azza wa Jal. Donc tout ça, on peut le développer, mes chers frères, en complétant notre foi en Allah Azza wa Jal. Et on ne complétera jamais assez. Toute notre vie, on a besoin d'apprendre les sifats d'Allah Azza wa Jal. On avait vu ensuite Al-Iman bil Malaika. Et l'objectif, c'était de réaliser que ce monde des anges est un monde extraordinaire, exceptionnel, incomparable avec notre monde. Et quand on avait vu, je pense qu'on avait étudié, oui, quelques malaïkas, quelques archanges, quelques muqarrabin, les anges proches d'Allah Azza wa Jal, comme l'ange Jibril, Mikaïl, Israfil, l'ange de la mort, Ridwan, quand on a vu la grandeur physique, comment Allah les a créés gigantesques, le pouvoir qu'Allah leur a accordé, ça nous a fait réaliser comment Allah Azza wa Jal est grand. Ça, c'est une des créatures d'Allah Azza wa Jal. Et comment est le pouvoir d'Allah Azza wa Jal? On a vu également que ces anges dépendent entièrement d'Allah Rabbul Izzah. Ces anges obéissent à Allah et ils exécutent les ordres d'Allah à la lettre. On a vu également qu'Allah a des anges. On avait vu, c'est, si je ne me trompe pas, 90% du monde des anges qui ont été créés que pour le ibad. L'exemple de cet ange qui, depuis qu'Allah s'est Mustawa ala al-Arsh, établi sur le trône jusqu'au Qiyama, cet ange reste en position de ruku' ou d'autre en position de sajda, en faisant le dhikr d'Allah Azza wa Jal. Et quand c'est la fin du monde, lorsque l'ange Israfil souffle dans la trompe, là l'ange, ces anges-là, ils se relèvent et ils disent « Oh Allah, on ne t'a pas adoré comme tu le méritais ». Ça nous fait réaliser que le monde des anges a été créé pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et que donc Allah n'a nullement besoin de nos actes d'adoration. Mais c'est que vraiment Allah a pitié de nous et Allah veut nous accorder quelque chose. Est-ce que les anges vont au paradis, astaghfirullah? Est-ce que les anges vont au paradis?
Non.
Non. Et pourquoi non?
Parce que les anges n'ont pas eu le choix entre les bonnes œuvres, entre les bonnes actions et les mauvaises actions. C'est une création d'Allah qui a été créée uniquement pour faire le ibadah et pour faire fonctionner le dunya. Ce sont des asbab, des intermédiaires pour faire fonctionner le dunya, les mondes, pour que les mondes fonctionnent comme Allah le veut. Allah aurait pu le faire même sans intermédiaire, mais Allah a créé des intermédiaires. Donc on a vu que ces anges ils sont là pour l'adoration. Donc nous, Allah Azza wa Jal attend de nous quelque chose d'énorme. C'est rectifier nos choix. C'est quand on a les pulsions, quand on a l'envie de faire les péchés, quand on a la paresse, on n'a pas envie de faire de bonnes œuvres, c'est là qu'on essaie de régler tout ça, de reparamétrer tout ça et de subhanallah, d'obéir à Allah Azza wa Jal. Un ange ne désobéit pas à Allah. La ya'asuna Allah ma amarahum. Un ange, ne sera jamais fatigué. Un ange n'aura jamais un accès de paresse ou de mélancolie ou de tristesse ou alors je ne sais pas quoi. Ils font ce qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné. Alors que l'homme, l'être humain, il y a des fois on est bien, des fois on n'est pas bien, des fois on est malade, des fois on est en forme, mashallah. Il y a des fois où on est prêt à faire de bonnes choses, il y a des fois où on flanche, il y a des fois où il y a de la paresse, il y a des fois où on ne veut pas venir à la masjid. Il y a des fois on n'a pas envie de prier, on a envie de dormir, on a envie de faire telle chose. Bref, chacun connaît ses faiblesses dans tous les domaines. Et il y a beaucoup de domaines de péchés différents. Mais c'est ça qu'Allah Azza wa Jal attend de nous, de rectifier tout ça, de ramener vers l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et les anges, autre différence, les anges côtoient Allah Rabbul Izza. Il y a les anges qui sont proches du trône d'Allah. Et puis il y a des anges, vous savez, le Bayt al-Ma'mour est visité par des milliers d'anges tous les jours. Donc, chaque ange a la possibilité de se rapprocher d'Allah réellement. Alors que l'être humain ne peut pas voir Allah. C'est pour ça que nos actes d'adoration sont vraiment importants pour Allah Azza wa Jal. A une réelle importance. Ensuite, on avait vu Al-Iman bil-Kutub, la foi sur les livres. Et on avait enchaîné avec la foi sur les Anbiya, les prophètes. Et l'objectif, c'était de réaliser qu'Allah Azza wa Jal nous a comblés par le meilleur des prophètes. Et qu'Allah Azza wa Jal nous a comblés par le meilleur des livres. Le meilleur des prophètes qui a une religion qui est parfaite, complète. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Et une religion et un livre, donc son message va perdurer jusqu'au Qiyam. Et que personne ne pourra changer le message qu'Allah Azza wa Jal a révélé à travers le Coran. C'est parce que c'est Kalamullah pour lequel Allah a accordé sa protection. Inna nahnu nazzalna dhikra. Et nous devons donc être fiers d'appartenir à cette umma, d'avoir le meilleur des livres. Nous devons être fiers d'avoir le meilleur des prophètes. Quand on voit la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Qiyama, quand les gens vont demander intercession à Adam, à Ibrahim, à Ismaïl, à Moussa, à Younous, à tous les prophètes jusqu'à Isa alayhi salam, et qu'ils vont tous refuser Shafa'a d'intercéder pour que le Qiyama, pour que les comptes commencent, le seul homme qui aura la possibilité de parler avec Allah Azza wa Jal pour demander l'intercession pour la création, ce sera le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'objectif c'était de réaliser la grandeur de cet homme et de comprendre également que l'islam c'est la continuité de tout ce qu'Allah Rabbul Izzah avait révélé comme religion et que toutes les religions, tous les prophètes invitaient vers la même croyance. Il y avait les actes d'adoration qui étaient parfois différents, la manière de jeûner, la manière de prier, et ainsi de suite. Mais le tronc commun, on pourrait dire, c'était l'adoration d'Allah l'unique, et ne point lui associer de divinité. Et ensuite, on avait démarré avec Al-Iman bil-Yawm al-Akhir, le fait de croire à l'au-delà. On avait expliqué quelques étapes de l'au-delà. On avait donc expliqué, on a essayé de mettre en avant le fait que l'au-delà, c'est vraiment un monde impitoyable. C'est vraiment un monde horrible. Le Qiyama, le Mahshar, les étapes de l'au-delà, c'est vraiment des étapes très difficiles. Ça, on avait pas mal développé en une séance complète. Mais on avait dit que, mashallah, dans ce chaos, dans le chaos du Akhira, il y aura des gens qui seront heureux. Il y a des gens qui auront le cœur apaisé, alors que les autres auront les cœurs affolés, angoissés. Et ces gens-là, ce seront les meilleurs des hommes. Ce seront les personnes qui auront fait de bonnes œuvres de ce monde. Sept catégorie de bonnes actions qui plaisent à Allah Azza wa Jal. Si le hadith avait décrivait que les prophètes et leurs compagnons seront sous l'ombre du trône d'Allah, ça nous aurait enlevé tout espoir, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer les prophètes. Mais là, le hadith décrive des qualités à développer. Et certainement les sahaba sont les premiers à les avoir développées, mais on pourrait dire que la porte reste ouverte. On peut toujours essayer de travailler une de ces qualités et peut-être atteindre un objectif. Et puis vous savez, quand Allah est tellement généreux que lorsqu'il voit un serviteur qui a l'intention, qui a envie de faire quelque chose de bien, même s'il n'arrive pas à le faire, on connaît qu'Allah est généreux, qu'Allah peut accorder à cette personne. Et Allah Azza wa Jal connaît nos faiblesses. Allah connaît la faiblesse de nos ibadas, de nos actes d'adoration. Et parmi donc, c'est on va dire, la crème des crèmes, le jour de Qiyam, les gens les plus honorés par Allah Azza wa Jal, on avait vu premièrement le roi juste. On avait expliqué la notion d'égalité, la notion de justice, la notion vraiment de insaniya, d'humanisme qu'il y a en islam. Et on avait donné des exemples de justice qu'il y avait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des sahaba, des khulafa al-rashidin. On avait vu que vraiment ces valeurs qu'on appelle de nos jours des valeurs humaines, d'accord, ces valeurs-là, on les retrouve vraiment dans notre religion, dans l'islam. Il ne faut pas croire que le musulman, c'est uniquement l'accomplissement des prières, c'est le ramadan, c'est la lecture du Coran. Ça, ce sont des actes d'adoration. Mais l'islam, c'est également des valeurs que le prophète sallam a transmis. Et on s'était arrêté sur un hadith qui est vraiment magnifique. Lorsque Usama, radiallahu anhu, avait essayé d'intercéder pour une femme de haute lignée, des Bani Makhzoum, avait une femme qui avait fait donc un péché à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était une femme d'une grande tribu. Ça, dans toutes les communautés, il y a. Chez les Indiens, il y a des grandes familles, puis il y a des familles moins importantes. Chez les Comoriens, chez les Maoris, il y a des grandes familles, des familles moins importantes. Si vous allez à Makkah, Madina, si vous parlez des Umari, des Harbi, des Qurashi, c'est les grandes familles. Après, il y a les familles ordinaires, Nasab. Ça, dans toutes les communautés, il y a. Dans toutes les populations, dans toutes les civilisations. Et bien sûr, quand il y a un problème qui touche quelqu'un d'une haute lignée, mais il y en a qui sont un peu embarrassés. Ils disent, bon, ben, on va essayer de l'aider. D'accord? Mais est-ce que tu aurais aidé le pauvre là, qui n'a pas de nom reconnu? Est-ce que tu l'aurais aidé de la même façon? Ça pour voir quelle est notre sincérité. On ne parle pas du sahaba, on parle de notre réaction de manière générale. Donc, Usama voulait que le prophète sallam fasse une exception pour cette femme des Bani Makhzoum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très en colère. Très en colère. Et le prophète alayhi salat wa salam a dit que attention. Et le prophète a fait spécialement khutba pour ça. Khutba. Ça, c'était l'habitude du prophète. Lorsqu'il y avait un problème, il se mettait sur le minbar et il faisait une explication aux sahaba. Et vous savez, lorsque le prophète fait une explication aux sahaba, là, c'était très court. Ce n'est pas des grands discours, 2, 3, 4 temps. Parce que le prophète, déjà, c'était un. Allah lui avait accordé Jawami al-Kalim. J'allais dire, c'était un magicien. C'était pas un magicien. C'est une idée. C'est-à-dire qu'il avait une maîtrise de la parole extraordinaire. Il pouvait percer les queues avec ses paroles. Il disait des paroles de haq, de vérité, avec une telle lumière que ça pénétrait directement les cœurs. Donc, l'émetteur était extrêmement puissant. Et en face, il y avait des sahaba, les plus hauts degrés de iman de l'univers, après les prophètes. Donc les récepteurs étaient totalement puissants. Un récepteur de qualité extraordinaire, avec les meilleurs récepteurs, un émetteur avec le meilleur récepteur, ça fait que le message passait. Et la parole se transformait tout de suite en amal. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque à tous. Celui qui écoute, celui qui parle. Les paroles se transformaient tout de suite en action. Les sahaba mettaient en pratique. C'est pas comme nous, on a besoin. J'aimerais écouter tel conférencier qui vient de France, de Paris, de Genève, de je ne sais pas où. Ah, lui, c'est un grand professeur. Ah, lui, il parle bien, je te jure. Hein. Ah, lui, il a la tchatch. Ben voilà, on a écouté. Monsieur a développé des thèses. Il a fait référence à l'histoire, à la guerre, aux civilisations. Dit, lui, c'est un intellectuel. Et quand tu ressors, qu'est-ce que tu fais? Combien tu m'en pratiques? Ou alors le but c'était juste d'écouter un beau discours. Est-ce qu'à écouter n'importe quelle parole, pas forcément de la religion. Si on recherche la beauté, Sahaba est différent. Prophète Ali salat wa salam, chaque parole qu'il disait était remplie de nour, de lumière. Ça, on va pas ouvrir un autre chapitre, une autre parenthèse. Mais les savants expliquent également qu'est-ce qui fait que quand le Prophète Sallam parlait, ça touchait les cœurs, et les Sahaba également, quand ils parlaient, ça touchait les cœurs. Parce que quand la personne qui parle a de son cœur réellement la crainte d'Allah Azza wa Jal, et que la personne passe sa vie dans l'obéissance d'Allah Rabbul Izza, en s'éloignant du haram, tant devant les gens qu'en cachette, d'accord, en privé, il y a une telle piété dans son cœur, c'est-à-dire, il atteint un tel degré de spiritualité que quand la personne parle, ça touche les cœurs et les gens mettent en pratique. Ça, c'est une qualité que les prophètes alayhim salat wa salam avaient et les sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in également avaient. Donc, on va revenir parce que sinon on va se perdre. Le prophète alayhim salat wa salam, donc, était très en colère. Il a dit que, attention, il a fait donc un khutbah, un sermon. Il a dit qu'attention, innama ahlaka man kana qablakum, annahum kanu. On va dire en français, qu'attention, les populations qui étaient venues avant vous ont été détruites à cause de ça. Et là, parenthèse sur parenthèse, les savants disent, voyez, l'histoire des peuples précédents doivent nous être profitables. Quand on étudie l'histoire des Israélites et les autres peuples qui sont venus avant nous, le but, ce n'est pas juste de s'enrichir, culture, histoire, connaissance générale. Ça, le but. Ça apporte quoi? Le but, c'est de tirer les leçons pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Et donc, même quand on lit l'histoire des peuples avec les autres prophètes, on doit être capable de comprendre pourquoi est-ce que le peuple de Salih, alayhi salam, était détruit. Pourquoi est-ce que le peuple de Lout, alayhi salam, était détruit. Pourquoi le peuple de Houd, alayhi salam, était détruit. Le peuple de Shu'aib, les grands commerçants, ont été détruits, et ainsi de suite. Ça, c'est très important. D'étudier les qasas al-Qur'an, les histoires du Qur'an, et plus précisément, les histoires des prophètes, pour savoir comment est-ce que le peuple ont été détruits, et pourquoi. Pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Ça, c'est un croyant intelligent. Celui qui apprend, qui continue d'apprendre. Celui qui réalise que j'ai besoin d'apprendre tous les jours. Que jusqu'à ma mort, j'ai besoin d'apprendre les histoires du Qur'an, j'ai besoin d'apprendre qu'est-ce qu'Allah, Rabbul Izzah, dit de le Qur'an. Les Mufassirin disent qu'à chaque fois qu'il y a « Ya ayyuhal ladhina amanu », chaque ahlul iman doit se réveiller, lever la tête et tendre les oreilles. Parce que s'il fait partie des ahlul iman, ce qui est le cas des gens qui ont la foi, qu'ils sachent que ce khitab, cette parole s'adresse à lui. « Ya ayyuhal ladhina amanu », ça concernait Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, mais ça concerne également Ibrahim, Ismaïl, Ridwan, en 2014, en 2015. Parce qu'ils font tous partie de « Ya ayyuhal ladhina amanu ». Combien « Ya ayyuhal ladhina amanu » de le Coran, on a laissé passer. On ne se pose même pas la question « Qu'est-ce qu'Allah dit à travers ça ?» Ça c'est pour moi-même, je dis en premier, et puis pour nous tous, pour qu'on réalise qu'on a encore du chemin à faire, mes chers frères. On a encore du chemin à faire. On expliquait ça au Latanié dernièrement, dans le verset de « Liman sha'a minkum an yastaqim » avec que le Coran, c'est une guidée, c'est une rahma, une bénédiction pour l'humanité, à condition que la personne veuille bien. Comment c'est traduit? À condition que, pour ceux qui veulent le droit chemin, pour ceux qui veulent trouver le droit chemin, qui cherchent le chemin droit, voilà. C'est-à-dire que celui qui recherche la vérité, qui veut avancer, il trouvera ce qu'il voudra dans le Coran. On ne doit pas être passif. On ne doit pas être des musulmans passifs face au message d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'aucune istiqama, aucune fermeté de la religion ne pourra se construire à long terme et sur des bases solides sans que ces bases-là soient les bases du Coran. Parce que si on construit une relation avec Allah basée uniquement sur les habitudes, sur l'éducation, sur un héritage qu'on a eu des parents et des professeurs et de notre alentour, de notre village ou de la population qui vit avec nous, on restera fragile. C'est correct tout ce qu'on fait, hein, mais on restera fragile parce que arrivera un fitna difficile, une grande épreuve, on sera perturbé, on risque de perdre pied. Parce que c'est quelque chose auquel on n'était pas habitué. Alors que si quelqu'un, il a, mashallah, compris le message général du Coran, quelles que soient les épreuves, les difficultés, les situations de la vie, il sait comment se raccrocher aux ordres d'Allah Azza wa Jal et ne jamais perdre pied. Donc on revient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'attention, les gens, il y avait des peuples avant vous qui ont été punis à cause de ça. Quand il y avait des nobles, des notables, et c'est une expression que j'ai horreur, ça, quand il y avait des notables, c'est-à-dire des gens riches, des gens importants, faisaient des erreurs, des péchés, on les couvrait. On ne disait rien, on fermait les yeux. Mais quand c'était un pauvre, par exemple, qui volait, aqamu alayhi al-had. Le hadith dit, idha saraqa fihim al-sharif tarakuhu. Lorsque le noble volait, on ne disait rien. Wa idha saraqa fihim al-da'if aqamu alayhi al-had. Et lorsque le pauvre volait, on l'attrapait, on le punissait. Et le prophète a dit, attention, ça c'est une grave erreur qu'on ne doit pas répéter dans notre communauté. Dites-moi, est-ce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne un peu? Vous voyez de l'actualité. Celui qui détourne des millions, on entend juste parler une fois, après on ne sait plus qu'est-ce qui s'est passé. Disparu de la circulation. Non mais c'est vrai, hein? Suivez une affaire qui éclate, le gars la détourne 25 millions d'euros. Je me dis un petit voisin, hein? Ça fait la une, un jour, deux jours. Après deux jours, on ne sait plus ce qui s'est passé. Il n'y a plus aucune nouvelle. Il est condamné, il est bien, il a été exilé, il a acheté une île aux Caraïbes, il est parti vivre là-bas. Khalas, on ne sait plus. Chalif, les grands vols. Mais le marmaille, le quartier, il a volé une petite affaire. Tout de suite, la police là-bas qui vient, trappe Ali, il fait scandale, il met dans fait divers. C'est le délinquant. Il volera de sa vie, il ne pourra jamais voler ce que ces gens-là, ils ont volé en une fois. En une fois. Mais on va leur taper dessus. C'est comme ça. Notre société fonctionne de manière injuste. Alors que ça ne veut pas dire qu'il faut alléger les petits voleurs. Non. C'est-à-dire que tout le monde doit payer. Tout le monde doit être égal face à la justice. Mais dites-moi, est-ce que nous vivons dans un... Est-ce que vraiment il y a une véritable justice? Il n'y a pas besoin d'être un grand analyste, je ne sais pas moi, un grand spécialiste en faits divers, en actualité. On se rend compte qu'il y a des choses qui tournent pas rond. On ne parle pas de politique, là. On parle de raisonnement humain. Et ça, c'est dans le monde entier, c'est comme ça. Le grand pays riche, d'accord, qui fait une bêtise, on ferme les yeux. Un petit pays qui fait un truc, tout de suite, ça dit les noms, hein, les casques, je ne sais pas, autre couleur, je ne sais pas, tout y vient, attention, lui, c'est futur terroriste. Il faut tout de suite les encercler, les enfermer, renverser le gouvernement, changer, ainsi de suite. Le grand qui vole, désire de justice. Il recherche justice, il veut... On trouvera toujours une philosophie, une excuse pour ce que le grand il fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Le gendarme, le shérif. Longtemps, il y avait un truc qui s'appelait XOR, shérif de l'espace. Comme t'es jeune, ça. C'est un autre, c'est shérif du monde, des continents. Frère, Inch'Allah. Et vous voyez que cette notion de justice que le prophète, alayhi salatu wassalam, enseigne au sahaba, et il l'applique sur lui-même. Comment est-ce qu'il applique sur lui-même quand le prophète dit attention, sachez que si ma propre fille, Fatima bint Muhammad, si ma fille volait, j'appliquerai la sentence d'Allah Azza wa Jal. Même si c'est ma propre fille, même si c'est ma chair, même si c'est mon sang, parce qu'il n'y a pas d'exception. Personne n'est au-dessus d'un autre. Cette notion d'égalité, mes chers frères, et de justice, c'était celle que le prophète m'avait enseignée, qu'il appliquait sur lui-même. Et si vraiment la Ummah islamiyya fonctionner de cette façon, subhanallah, nous serions des modèles pour toutes les civilisations, pour l'humanité. Alors, dans le dîn, il n'y a pas de noblesse. Il n'y a pas de noblesse, il n'y a pas de tiers état, il n'y a pas de sans-culotte, il n'y a pas d'extra-culotte non plus. Tout le monde est pareil. Inna akramakum indallahi atqakum. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de grande famille, il n'y a pas de petite famille. Ça, c'est des réalités, ce n'est pas des paroles, on avait expliqué, ça c'est pas un discours, ce n'est pas des thèses. Quand le prophète dit que le blanc n'a pas de supériorité sur le noir, ni l'arabe sur le non-arabe, et ainsi de suite, il l'a bi taqwa uniquement par la piété. Le prophète l'a dit, mais il l'a appliqué. Lorsqu'il a élevé, il a donné le plus haut grade à Bilal ibn Rabah en tant que muadhin de Mecca, en tant que muadhin de Medina. Qui c'est qui est monté sur la Kaaba? Premier muadhin de l'histoire de l'islam, un homme de peau noire. Abyssinie, Éthiopie, descendant d'esclaves, aucune nasab, aucune richesse, quelqu'un sur lequel tout le monde crachait, on pouvait faire ce qu'on voulait parce qu'il n'avait aucune importance. Mais il y avait un tel iman de son cœur que le prophète l'a mis sur la Kaaba au Bilal, c'est toi qui donnes le adhan. Et quel symbolisme! C'était un adhan donné alors qu'il y avait encore des idoles autour de la Kaaba, oui ou non? C'était avant Fath Makkah, ça c'était Umratul Qadha. Ça c'est le Umra, le rattrapage du Umra après le pacte de Hudaybiyah. Donc c'est la première fois que les musulmans, les Ahlé Makkah, les Muhajirin, revenaient à Makkah depuis la Hijra. Donc pour eux c'était, subhanallah, c'était quelque chose d'extrêmement fort, de spirituel et de symbolique. Et là, ce premier adhan, ça va être comme une annonce, un souffle de tawhid qui va être soufflé après des années d'obscurité, de shirk, de polythéiste. Et cet honneur a été accordé à Bilal ibn Rabah. Le prophète, ça c'est de dunya et de l'akhir, le prophète me dit, « Oh Bilal, quelle action tu accomplis ? Parce que j'entends, t'es pas dans le Jannah. » Ajib ça. « Oh Bilal, quelle action tu accomplis ? Nuit et jour, parce que dans mon rêve, j'ai entendu, t'es pas dans le Jannah. » Il dit ça d'un homme qui, quelques années avant, c'était un esclave, qu'on mettait à genoux, on mettait sur le sable chaud, qu'on frappait, qu'on fouettait. Ça, c'est la beauté de notre dîme, mes chers frères. Ça, c'est la beauté de notre islam. Ce ne sont pas que des thèses, c'est vraiment un mode de vie. C'est des choses que le prophète a appliquées pour les musulmans et pour lui-même. Voilà. Ensuite, donc, on avait vu notre catégorie de ces personnes qui seront honorées par Allah, Rabbul Izzah. شاب نشأ في طاعة الله. Ce jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Ça, on avait déjà développé entièrement, il me semble. Donc, on ne va pas revenir dessus. Quelle est la grande leçon à retenir de cette catégorie de personnes? C'est lorsqu'Allah Azza wa Jal vous accorde des bienfaits, entre autres la santé quand on est jeune. Un. Deuxièmement, quand on est exposé au péché. Quand les péchés nous sont accessibles et qu'on a de fortes chances de pouvoir accomplir tous les péchés possibles et imaginables, sans qu'il y ait résistance, sans qu'il y ait difficulté. C'est-à-dire les péchés sont à nos portes. Et que là, la seule chose qui nous retient face à ce plaisir immédiat, c'est l'amour et la crainte d'Allah. Quand on a eu cette réaction, on a décollé. On a été accepté par Allah. Donc c'est le cas du jeûne. Le jeune, machin, il a la santé, physiquement il est au top. Toutes les portes du péché sont accessibles. La musique, l'adultère, l'alcool, tout est possible. Alors que quand on devient vieux, un vieux bakoko de 70 ans, avec qui va faire zina? Dites-moi. Il faudra qu'il paye, excusez-moi. D'accord? Et là aussi, même s'il paye, il y en a qui ont dit que ça n'a pas de prix. D'accord? Donc, à un certain âge, quand on n'a plus la beauté physique, quand on n'a plus la santé, ainsi de suite, il n'y a même plus de motivation, le pauvre. À moins d'avaler, je ne sais pas combien, tonneau de machin bleu, c'est fini aussi, d'accord? On fonctionne au ralenti. Alors que quand on est jeune, qu'on a cette force, et dites-moi, qui est-ce qui a incarné la jeunesse et qui a donné un exemple de résistance face au haram? Qui est ce prophète? Youssouf alayhi salam. Est-ce que Youssouf était l'homme le plus beau au monde? Non. C'est le deuxième homme le plus beau au monde. Le plus beau au monde, c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et juste, mais Allah Rabbul Izzah n'avait pas révélé au monde la réelle beauté du prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, alors que la beauté de Yusuf alayhi salam avait été révélée à tout le monde. Quand il entre dans la pièce, les femmes qui coupaient quoi encore, des oignons? Des pommes, non? D'accord, je vais oublier un petit peu l'histoire. Ils commencent à couper les mains. Ajib ça. Même si on amène n'importe quel acteur de je ne sais pas qui, la fois je viens un reportage avec un acteur, il était une star il y a quelques années, le bouc finit bien, gros joue comme ça. Il dit, Ajib, c'est vrai, qui pue son nom, hein. Ah, vieux jeu dans le film, il avait un bateau, il était cool, là. D'accord? Il finit bien gros. Il dit, ben Ajib, c'est ça, la beauté. Youssouf alayhi salam, sa beauté, c'était incomparable. On a un exemple de Youssouf là à notre droite, mashallah, avec le visage illuminé, rempli de nour. Et donc, Youssouf alayhi salam reçoit les avants de cette princesse. Et cette princesse ne pouvait pas avoir, la femme du ministre ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle était belle. Elle lui fait des avances avec toutes les précautions qu'elle prend, parce qu'elle ne veut pas se faire attraper par son mari. Donc les précautions avaient été prises, il y avait des gens qui surveillaient les alentours pour que personne ne soit là. Donc le péché était accessible. Tout à fait accessible. Youssouf est un jeune homme, il n'est pas marié encore. il reste un être humain. Et donc, il a la possibilité de faire le haram, mais Allah Rabbul Izza le protège et il revient vers le droit chemin. Je souris parce que je pensais à une réponse qu'un jeune de la classe m'avait donnée il y a quelques semaines, en parlant un peu des shahawat et tout. Il m'a dit, Moïsab, sous mon kandou, je reste un homme. En disant que par rapport aux femmes, résister, il a dit, mais sous notre kandou, nous restons des hommes. J'ai dit, c'est clair, mais c'est là qu'il faut savoir se contrôler. D'accord ? Bref. Et donc, on a d'autres exemples également, comme ces jeunes qui étaient, trois personnes qui étaient prisonniers de la grotte, et il y avait donc la grotte, il y avait un éboulis, donc la sortie était obstruée, d'accord ? Et donc, ils ont su que la seule chose qui pouvait les sauver, c'était de demander à Allah, Rabbul Izza, d'implorer l'aide d'Allah en mettant en avant la plus belle des actions qu'ils ont fait de leur vie. Il y en a un qui a invoqué l'obéissance envers ses parents. Et il y en a un qui a évoqué le fait qu'il était amoureux d'une femme et que cette femme avait toujours refusé ses avances et qu'à un moment donné cette femme était obligée d'accepter parce qu'elle avait besoin d'argent. Situation attristante. Il dit qu'au moment où j'allais accomplir mon rêve, depuis combien de temps il pense à cette femme, au moment, et le hadith est très clair. Il dit que lorsqu'il était en position de faire le haram, là la femme lui a juste dit, crains Allah de ce que tu vas faire, avec des détails que je ne vais pas citer. Et la personne a eu un retour de iman, un retour de foi, et il s'est arrêté, il a dit que non, j'ai la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Rabbul Izzah a tellement aimé cette action, que ça a été l'action la plus belle qu'il a accomplie de toute sa vie. C'est pas qu'il a fait une bonne action. Regardez, hein, celui qui est venu en aide, qui a fait khidma de ses parents, il a mis en avant une bonne action qu'il a fait pour ses parents, c'est-à-dire une bonne action qu'il a accomplie. Alors que lui, il a mis en avant le recul face à un péché, l'abstention. L'abstention, ce n'est pas bon. D'accord ? Il a évoqué son abstention, son refus de péché. Il n'a pas fait une bonne action. C'est juste qu'il avait un péché, il a dit non. Ce n'est pas qu'il a fait quelque chose d'énorme. Il a refusé quelque chose d'énorme. Et ça a été accepté par Allah comme étant la meilleure des actions qu'il a fait durant toute son existence. Et il y a d'autres exemples encore, subhanallah. Et on verra que directement dans ces thématiques des personnes qui sont selon le train d'Allah, Azza wa Jal, c'est cette personne qui reçoit les avances d'une belle femme de haute lignée et qui refuse le haram par crainte et par amour d'Allah Azza wa Jal. Donc, ça nous fait réaliser que quand on est jeune et quand on a cette force, cette fougue, ce potentiel, il est important de canaliser tout ça pour rester fidèle aux ordres d'Allah Rabbul Izzah et de ne pas franchir donc les limites des interdits. Et on avait vu également que, en plus de se contrôler, quand on est jeune, on a la possibilité de faire des choses énormes. Et les plus belles des actions, les actions les plus importantes dans l'histoire de l'islam ont été accomplies par des shababs, par des jeunes. Entre Ali ibn Abi Talib, qui se sacrifie en dormant dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui risque donc sa vie. Il y avait je ne sais pas combien de personnes avec leur sabre dehors qui attendaient pour le tuer. Pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui croyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dire que prendre la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était presque se condamner à mourir. Il y a des gens armés qui sont prêts à te tuer si tu bouges. Et lui, il prend la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un jeune homme, Ali ibn Abi Talib. Et grâce à son sacrifice, bidnillah, le prophète a pu quitter sa maison et quitter Makkah pour aller là, pour aller à Madina faire la hijra. Et on connaît tous que la hijra, c'est l'événement le plus important de l'histoire de l'islam. Ça a été permis par un jeune homme, Ali ibn Abi Talib. Qui est cette personne qui a amené l'islam dans la ville sainte de Al-Madina? On continue avec la hijra. Moussa ibn Umair, qui a été à Madina comme muallim, comme enseignant, qui a enseigné le Coran aux gens et qui, bidnillah, avec sa da'wah, a changé le cœur des polythéistes de Médine. Et il a été un même légué entre les Haus et les Khazraj, en apportant la sérénité et l'amour qu'il y a dans la religion. Et grâce à lui, bidnillah, les musulmans ont trouvé un terrain propice pour la hijra. Ils ont pu imaginer qu'ils étaient arrivés à Madina et que les gens étaient aussi hostiles qu'à Mecca, parce que c'était les mêmes arabes, c'était des polythéistes aussi, d'accord. il y aurait eu les mêmes problèmes, persécution, refus, expulsion. Mais non, ce jeune homme qui a travaillé le cœur de ces Ahlul Madina a fait que quand les musulmans sont arrivés, la bi'a était propice, ils ont accueilli les musulmans. Donc cette action énorme qui était de préparer Ardul Hijra, préparer la terre de la Hijra, Al-Madina, donc, ça a été fait par ce jeune homme qui a invité les grands de Médine, les chefs de tribu, Saïd ibn Khudayr, Sa'd ibn Ma'ad, subhanallah, il y a d'autres noms encore. Comment ? Usayd ibn Khudayr, on avait dit. Il y avait trois grands chefs de tribu de Médine qui ont tous donc accepté la prêche de Moussa ibn Umair, et il est dit qu'il n'y avait pas une maison où le iman n'était pas entré. Celui qui a également réuni le Coran, celui qui était à la tête de l'armée contre les Romains, les Byzantins, c'était Oussama. C'était des jeunes qui, mashallah, avaient fait les actions les plus remarquables de l'histoire de l'islam. Les plus grands fuqaha, j'ai plus les noms, j'ai pas mes notes sous les yeux, parce que ça c'est une note thématique. Un des plus grands faqih de cette umma, c'était également un jeune sahaba. Qui était le plus grand mufassir de la umma? Ibn Abbas, radiallahu anhu, mahabl al-umma. Tout ça, c'était des shabab, des gens qui avaient moins de 25 ans. C'est-à-dire que l'étendard de l'islam a été porté par la main de ces jeunes qui savaient résister au hafas au haram complètement et qui savaient utiliser toute cette force, cette énergie dans le droit chemin pour la nusra du din d'Allah Azza wa Jal. On va s'arrêter à la pause ce soir, Inch'Allah. On en est à 41 minutes. On a dit qu'on ne dépasse pas 40 minutes. La prochaine fois, on va voir la troisième catégorie qu'on avait déjà expliqué, l'homme qui a le cœur attaché au masajid. Comme on ne l'avait pas fait depuis 3 semaines, il me semble, c'était nécessaire de faire un petit récapitulatif. Donc, on va revoir un petit peu également l'homme dont le cœur est attaché à la masjid. Hein, cette personne qui, pour lui, subhanallah, l'adoration d'Allah, Rabbul Izzah, dépasse de loin les plaisirs de ce monde et tout ce qu'on peut imaginer. Et on verra la quatrième catégorie, les gens qui s'aiment, qui ont la muhabba, sincérité pour Allah Rabbul Izzah. Et on va continuer jusqu'à la septième catégorie et voir peut-être encore quelques étapes de l'au-delà pour compléter la notion de croire au jugement dernier. Et puis nous restera, l'objectif c'est de terminer ça avant le mois de Ramadan, Inch'Allah, de compléter le sixième pilier, la sixième branche de la foi, qui est le fait de croire au destin. Si pour le mois béni, on a complété les 6 branches de la foi, alhamdulillah, je pense qu'on aura bien avancé. Qu'Allah Azza wa Jalla donne tawfiq, mes chers frères, de comprendre ces quelques paroles, de tirer les leçons, et que la foi, la véritable iman, pénètre nos cœurs, et qu'Allah nous donne la possibilité de développer une qualité ou plusieurs qualités de ces gens qui seront invités sous l'ombre de son trône le jour de Qiyam. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah.